Bien, nous allons commencer cette conférence. Donc Vincent de Gaulle et Jacques nous fait le plaisir de venir de Paris. C'est un Lot-et-Garonnais d'origine. Il n'y a jamais vécu, mais de famille d'être Lot-et-Garonne, donc un peu en voisin, entre guillemets, il vient aussi. Mon propos, pour introduire son livre et introduire son intervention, présenter son œuvre est quelque chose de complexe, de long. Hein, on m'a donné 10 minutes. Et de surcroît, je ne suis pas un sociologue, je suis un juriste. Alors un juriste qui vient présenter un sociologue, c'est surprenant, mais je dirais, c'est peut-être quand même que parfois le travail du sociologue peut avoir une influence sur la société, peut avoir une influence sur le droit et sur l'évolution de la jurisprudence. Je trouvais que c'était somme toute une idée qui n'était pas si incongrue que cela. Donc, Vincent de Gaulle et Jacques a eu une démarche assez intéressante et je dirais, c'est vrai que aujourd'hui, la question de la santé au travail, la question de la souffrance, tout le monde en parle. Il a été quand même un des premiers à véritablement évoquer cette question, à la travailler, à l'aborder. Et je dirais, pour moi, le premier livre majeur sur ces questions, c'était Le coût de l'excellence en 1991. Depuis, il a développé et approfondi. Et ce livre de 1991, Le coût de l'excellence, faisait le lien entre l'organisation et l'individu, et à partir d'un travail sur les sociétés multinationales, où on voyait tout le travail qui avait été fait sur l'investissement de l'individu, la subjectivité, l'importance de donner une place aux salariés et d'utiliser, je dirais, non seulement, comme autrefois dans le cas d'un travail taylorien, la force du salarié, où nous étions dans un travail objet du contrat. Là, on demande à mobiliser la subjectivité, le sujet en tant que tel. Alors pour moi, juriste, évidemment, ça évoque des choses. On demande et on met en place la subjectivité. On demande à la personne de s'investir. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi Vincent de Gaulle et Jacques en est arrivé là. C'est toujours intéressant, quand on regarde un sociologue, de voir qu'est-ce qui l'amène à développer des théories. Alors, il évoque, et pour cela, je dirais, je ne vais pas vous le résumer longuement, parce que ça serait trop long, mais les sociologues aiment souvent présenter leurs itinéraires. Et il a écrit donc un itinéraire jusqu'en 1986, hein, qui est dans un livre. Alors, c'est un livre que vous trouverez, qui est dans le cadre des éditions de Laboratoire du changement social, qu'il dirige depuis une trentaine d'années. Donc, il y a un livre. Je suis chez un libraire, donc automatiquement, je vous parle du livre. Dans cette narration qu'il présente, je dirais, on voit différentes influences, on voit son cheminement, on voit une personne qui va, en fait, je dirais, gober avec gourmandise les différentes théories, les différents courants de pensée, sans peut-être véritablement s'arrêter à un courant de pensée comme étant le courant de pensée. Et c'est ça qui va être un petit peu sa marque de fabrique, c'est qu'il va devenir sociologue, mais ce ne sera pas un sociologue qui fait que de la sociologie au sens classique du terme. Il va passer par la psychanalyse, il va développer la sociologie clinique dans les années 90, qui sera quand même un élément que je pense particulièrement intéressant, enfin qui est toujours un mouvement très fort. Hein. Au début, on parlait des sociologies cliniques, on parle de la sociologie clinique. Hein, et là, c'est aux confins de la sociologie et de l'appréhension de l'individu et de la compréhension de la subjectivité de l'individu. Hein, dans un livre, il nous dit que la subjectivité de l'individu est facteur de connaissance. Alors, pour un juriste, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. La subjectivité qui est facteur de connaissance, moi, ça m'interpelle, ça me ravit. Mais il y avait une conférence récemment auprès de 150 confrères là, à l'école de la magistrature. Quand on parlait de ça, ils avaient un peu de mal à comprendre quand même. Bon, donc on a ces courants, il est passé, et autre élément qui est particulièrement important, c'est que dans ses études universitaires, outre le fait que Vincent de Gaulle et Jacques ait fait du droit, mais le droit mène à tout à condition d'en partir, dit-on, lui il en est effectivement parti, pas moi, mais il est déjà parti, il a fait un peu de droit, il a même été un peu conseiller juridique, ce que j'ai été, et manifestement ça ne vous plaisait pas du tout, dans le livre, quand vous le présentez, vous dites vraiment que c'était catastrophique, ça ne vous passionnait pas. Il est passé à Dauphine, au début de Dauphine, où, je dirais, la place de Dauphine comme université de gestion n'était pas comme elle est aujourd'hui, hein. C'était pas la fac telle qu'on la connaît en matière de gestion, mais il a appréhendé la question de l'organisation. Donc, Dans son cursus universitaire, il va aborder l'organisation. Après, avec Max Barges, il va découvrir Carl Rogers, qui va lui faire découvrir l'empathie, le développement personnel. Il va après avoir moult boulot. Hein. Je ne sais pas quand vous allez liquider votre retraite, mais alors vous devez avoir X régime de retraite. Ce n'est pas possible le nombre d'emplois et d'activités que vous avez pu avoir. Quoi. Hein. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que Vincent de Gaulle-Jacques va être éducateur de rue, va se confronter aux individus, va comprendre, s'intéresser aux personnes. De par ses origines sociales, la notion de construction de sa vie, de l'histoire, hein, et le rapport à l'histoire va être quelque chose d'extrêmement important. Il écrira plusieurs livres sur ces questions-là. Donc, vous voyez, une double approche. Il va appréhender la question de l'organisation, la question de l'entreprise, du fonctionnement des organisations, et il va s'intéresser à l'individu, au fonctionnement de l'individu. Et c'est cette jonction de ces deux notions, je dirais, qui va faire un peu la spécificité et la force de son travail. Et dans le livre Le coût de l'excellence de 91 qu'il a écrit avec Nicole Aubert, je trouve, moi, ce livre, enfin, je ne l'ai pas lu en 91, je reconnais, je l'ai lu il y a une dizaine d'années, c'est le livre qui m'a fait entrer dans la question. Bon, donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui, parce que c'est honnêtement, ces questions-là, moi, simple juriste en droit social, avocat en droit social, je ne connaissais pas trop, ça m'a fait découvrir ces questions-là, et ça a été, dans mon cheminement, quelque chose d'important. Et je relisais, donc, évidemment, un petit peu, pour venir vous le présenter, je relisais un petit peu ces différents écrits, et je relisais dans son livre « Le coût de l'excellence », et il nous faisait un schéma, le processus de bouclage qui constitue le système psychique organisationnel, où il nous fait le lien entre l'organisation et comment on utilise le psychisme, comment on utilise la subjectivité de l'individu, la motivation de l'individu pour le faire avancer. Et c'est cette, quelque part, un petit peu manipulation de l'individu, hein, qui aujourd'hui est aussi celle qui, à un moment, amène de la souffrance et de la frustration, quoi. On pousse la personne, véritablement, parfois jusqu'au bout de sa motivation, pour qu'il avance pas à pas et que, je dirais, il sorte le maximum de lui-même. Et c'est pour ça qu'on va parler, dans ce livre, Le coût de l'excellence, bon, qui répondait à un livre de Peters qui était le prix de l'excellence, hein, on parle de l'excellence. Parmi ses doctorants, quand il va gérer le laboratoire de changement social, il y a Marianne Dujarrier qui parlera de l'idéal au travail. Et ces notions, elles sont extrêmement importantes. On est dans la subjectivité, donc on est dans l'idéal, on est dans l'excellence, on ne motive pas quelqu'un en lui disant « soyez moyen ». Et donc, cette excellence, ben, c'est de l'absolu. Alors, pour nous, les juristes, nous avons mis beaucoup de temps, parce que c'est nous que depuis 2002 que nous avons une obligation de résultat en matière de sécurité, hein, seulement 2002. Alors, un des fondements, c'est Kant, l'homme comme fin et l'homme comme moyen. C'est aussi votre conclusion, d'ailleurs, hein, dans deux livres au moins, j'ai retrouvé que vous le citiez Kant comme l'homme comme fin et non comme moyen. Et là, ceci étant, quand on regarde le schéma que vous développiez en 91, hein, sur un schéma psychique organisationnel, on se demande où est le sujet. Alors, vous avez continué à travailler, vous avez en 2004 écrit la société malade de la gestion, vous faites à peu près, hein, dans laquelle vous évoquiez le harcèlement moral, vous l'avez fait en 2004. La Cour de cassation a mis 5 ans, mais quand même, je dirais, c'est pas si mal, pour qu'en 2009, la jurisprudence reconnaisse le harcèlement organisationnel. Je dirais, je ne sais si nous vous le devons, mais en tout état de cause, ben, tant mieux. En tout état de cause, tant mieux. Hein, donc, 5 ans après, pour des juristes, c'est quand même assez rapide. Mais c'est quand même symbolique. C'est à mon sens symbolique. Et pour terminer et vous laisser la parole, je dirais, vous venez donc d'écrire les raisons de la colère. Votre dernier livre qui reprend l'essentiel de vos théories, qui illustre particulièrement, moins sur les entreprises multinationales, mais je dirais beaucoup plus sur les entreprises publiques modernisées avec la RGPP, ce qui est quand même particulièrement intéressant. Et moi, les derniers chapitres, c'était le traitement des situations paradoxantes, des situations paradoxales, hein, qui me semble particulièrement important et qui est la grande difficulté aujourd'hui, effectivement, des objectifs paradoxaux que l'on demande à un management et comment il s'en sort. Et effectivement, on s'aperçoit bien qu'il disjoncte. Je me souviens d'une conférence que nous avait fait une de membres de votre laboratoire, là, que vous dirigez depuis 30 ans, sur une entreprise publique, et qui disait « Pourquoi ça ne craque pas ?» Pourquoi ça ne craque pas ? Et j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, ça craque. En tout cas, dans notre monde, ça craque. Donc voilà, hein, écoutez, je vous laisse présenter, je ne vais pas déflorer votre sujet.
Ben merci, bonjour, c'est un plaisir d'être ici, effectivement. Moi, mes parents viennent du Lot-et-Garonne, donc voisins. Donc c'est toujours un bonheur de revenir dans le sud-ouest, évidemment. Puis il fait beau, en plus. Alors, merci pour votre présentation. Vous avez dit un certain nombre de choses. Je ne sais pas si je dois les compléter. Simplement, peut-être, vous avez évoqué effectivement mon passage à Dauphine. Quelques mots sur l'histoire peut-être de ce livre, d'où ça vient. Avant le coup de l'excellence, il y a eu une recherche que j'ai faite avec Max Pagès. Et lui était le responsable du département de psychosociologie à Dauphine. Je voudrais le dire publiquement parce que c'est important comme enjeu à la fois scientifique et politique. Quand je suis arrivé à Dauphine, donc je venais du droit, j'avais envie de faire autre chose. Dauphine est créée par Edgar Faure. Il y avait la fac de droite et la fac de gauche, la fac du 16e arrondissement et la fac de Vincennes. Alors Vincennes, c'était les gauchistes, Lacan, Robert Castel, Derrida, les philosophes, les gens tout ce courant d'inspirateurs aussi du mouvement de mai 68, etc. Et puis Dauphine, c'était au bout de l'avenue Foch, dans les anciens bâtiments de l'OTAN, dans des bâtiments militaires. Mais ce n'était pas la fac de gestion qu'on connaît aujourd'hui. Le projet de Dauphine, comme projet scientifique et politique, était tout à fait intéressant. J'étais, moi, dans l'UFR de sciences des organisations. Et Dauphine, c'était une université de sciences des organisations. C'est-à-dire, il y avait un vrai projet scientifique de Hubert Brochier et Pierre Tabatoni, qui était entre l'économie, la socio-économie, etc. La gestion, d'une certaine façon, n'existait pas à l'université comme science. Et donc, le projet de science des organisations, c'était de comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une organisation, d'en faire un objet scientifique. Et il y avait trois disciplines de base, qui étaient les mathématiques, l'économie et la psychosociologie. Et je ne sais pas si c'est un titre de noblesse, mais enfin, je suis le premier docteur de Dauphine, non pas en importance, mais je suis un des premiers à avoir soutenu sa thèse. Et donc, je suis docteur en sciences des organisations. Je suis très fier de ça, sauf que ça n'existe plus. J'ai été assistant, puis maître de conf à Dauphine, et j'ai vu comment ce projet scientifique s'est transformé, comment sont apparues les sciences de gestion, la comptabilité, le marketing, la gestion financière, la gestion stratégique, le droit appliqué à la gestion, c'est-à-dire comment on est passé d'un projet de science fondamentale pour comprendre à un projet de science appliquée pour agir et pour optimiser le fonctionnement des organisations afin de l'adapter aux objectifs qui sont fixés. Et là, il y a un implicite, fixé par qui ? Et donc, on voit l'occultation, à ce moment-là, des enjeux de pouvoir. L'occultation de... Pour qui on fait ça ? C'est-à-dire l'occultation du sens de l'action. Et on n'est plus dans l'enjeu scientifique pour comprendre, on est dans des enjeux stratégiques pour agir. Et avec des paradigmes, des paradigmes positivistes, utilitaristes, fonctionnalistes, tout ce que vous voulez, qui posent un problème parce que ça paraît, il n'y a rien de plus neutre que la gestion, apparemment, de plus pragmatique, de plus objectif, d'une certaine façon. On pourrait avoir cette discussion pour le droit, mais le droit est une science beaucoup plus vieille qui a déjà pensé à ces questions-là depuis très très longtemps. Enfin, pas tous les juristes, mais ceux qui... Tandis que les gestionnaires, ils pensent pas beaucoup, à part quelques excellents collègues avec lesquels je ne veux pas me mettre en porte-à-faux aujourd'hui, qui sont d'excellents chercheurs. Mais sinon, les gestionnaires ne voient pas et ne savent pas que ce qu'il croit être une des disciplines du champ scientifique est en fait devenue l'idéologie dominante de notre temps. Mais qui est très difficile à combattre parce qu'elle ne se présente absolument pas comme une idéologie. Hein, comme une grande doctrine qui va changer le monde. Non, elle se présente simplement comme quelque chose de neutre et pragmatique pour gérer les choses le mieux possible. Pourquoi vous allez chercher de l'idéologie là-dedans ? Alors, pourquoi je vais chercher de l'idéologie là-dedans ? C'est que la chance que j'ai eue en étant à Dauphine avec Max Pagès, c'est qu'à l'époque, les étudiants considéraient que la psychosociologie, c'était un peu comme le dessin et la musique au lycée. C'était quelque chose qui était fait pour se détendre, mais que ce n'était pas sérieux, ce n'était pas fait pour travailler, quoi. La gestion financière, oui, ça, c'est sérieux. La psychosociologie... Et donc, on s'est dit, on va faire une recherche sur le pouvoir dans les organisations, puisqu'on est en sciences des organisations, et que, en fait, les gens qui font de la gestion sont fascinés par les enjeux de pouvoir. Donc, on va faire une recherche pour essayer de comprendre ça. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on n'a pas trouvé de terrain. Parce que dans les années 70, quand vous étiez sociologue et que vous vouliez faire une enquête sur le pouvoir et que vous adressiez à des entreprises, d'abord, ils ne faisaient pas la différence entre socialistes, sociologues, gauchistes. Je vous assure. Et puis ensuite, une recherche sur le pouvoir, c'était comment ? C'était comme... Je veux dire, c'était une provocation. Parler en termes de pouvoir dans l'entreprise, désigner ça, hein, donc qu'on parle d'orientation stratégique, ça va, mais de parler de pouvoir, bon. Donc on ne trouvait pas de terrain, et c'est la chance, toujours, en recherche, c'est toujours comme ça, c'est quand on bute qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'un DRH d'IBM, qui était absolument fasciné par Max Pagès et la psychosociologie, nous a proposé de prendre IBM comme terrain, avec une demande qui était de dire « vous allez voir, c'est formidable ». Et son rêve à lui, c'était de réconcilier la psychosociologie et son entreprise. Et on découvre là quelqu'un... Parce que nous, pour nous, l'entreprise, c'était l'époque, l'entreprise industrielle, patronale, taylorienne, disciplinaire, hiérarchique, avec la pointeuse, l'horreur. Et là, on découvre, dans les années 70, c'était pas très connu, un monde dans lequel les gens vous disent qu'ils sont absolument heureux de travailler, qu'ils sont hyper performants, qu'ils ont une fierté dans leur entreprise et que... alors là, à ce moment-là, il n'y avait pas tous ces termes qui sont venus depuis, comme jouer gagnant-gagnant, par exemple, hein, entre le travailleur, et qu'ils nous disent des choses comme « je suis exploité de façon agréable », donc ils ont quand même une certaine lucidité, hein. Et ils disent « je suis passé de secrétaire à manager en 3 ans de temps, donc je suis parfaitement heureuse ». C'est-à-dire qu'ils nous parlent de subjectivité dans leur rapport au travail. Et le rapport n'est plus le travail n'est plus cette extériorité contraignante, hein, qui est terminée au moment où on met la pointeuse, et donc il faut passer 8 heures par jour à la perdre, hein, gagner sa vie pour la perdre en travaillant, mais au moins il reste 16 heures, et dans 16 heures, c'est autre chose. Et là, on voit toutes ces frontières habituelles pour aborder l'entreprise, pour aborder le pouvoir, pour aborder la question du travail, le rapport au travail. Les catégories habituelles qu'on pouvait avoir ne fonctionnent plus. Et on a écrit un livre qu'on voulait appeler avec Max « TLTX, mon amour ». TLTX, mon amour. TLTX, c'était le nom de code qu'on avait donné à l'entreprise. Et l'éditeur, le PUF, n'a pas voulu... considérant que TLTX Mon Amour, c'était pas un livre scientifique sérieux et que ça faisait collection Fleuve Noir, etc. Vous imaginez ça aux presses universitaires de France. Donc on n'a pas pu l'appeler TLTX Mon Amour. Quel dommage. D'abord parce que c'était un très beau titre et parce que ça disait bien cet attachement qu'on voyait des gens à leur entreprise. Et ça s'est appelé L'emprise de l'organisation. Ça a été publié en 1979 et c'est toujours réédité parce qu'en fait... On était les premiers, je pense, chercheurs à découvrir ces nouvelles formes de pouvoir, ces nouvelles formes de gouvernance, ce que je propose aujourd'hui d'appeler la révolution managériale. C'est intéressant parce que cette révolution managériale, elle a été pensée, en fait, dans les mêmes creusets que la révolution de l'ultralibéralisme, du capitalisme de Milton Friedman. Milton Friedman, donc sur les théories, hein, ces théories qui ont été appliquées par Reagan et Thatcher dans les années 80 et qui sont aujourd'hui appliquées par Sarkozy. Et pour le MEDEF, la révolution managériale, ça date simplement des années 90. Et c'est quoi cette révolution managériale ? Ben, c'est une nouvelle forme de gouvernance qui est née donc, dans les multinationales. Et c'est pour ça que je parle de l'emprise d'IBM, parce que c'est des entreprises comme IBM et comme les grandes multinationales anglo-saxonnes qui ont mis en place cette nouvelle forme de pouvoir à partir d'une idée quand même formidable qui était « il faut réconcilier l'individu et l'entreprise ». Il faut que n'y a pas d'antagonisme entre l'intérêt du travailleur, l'intérêt de l'actionnaire et même l'intérêt du client. On joue gagnant, gagnant, gagnant. Et c'est aussi un peu le modèle dont on parle aujourd'hui comme le modèle fordiste, c'est-à-dire dire on va mettre en place des visions, des cultures d'entreprise, tout un esprit, on va changer l'esprit du travail pour pouvoir produire l'adhésion des travailleurs à ce que l'entreprise leur propose, et même au-delà de l'adhésion, hein, d'associer le contrat de travail d'un point de vue juridique à un contrat psychologique qu'on pourrait évoquer comme un contrat narcissique, c'est-à-dire la performance de l'entreprise est liée à la performance de l'humain et les deux vont dans le même sens. Et l'excellence, c'était un peu cette idée-là, hein, que l'excellence des résultats de l'entreprise ne peut être provoquée que par l'excellence des travailleurs pour le plus grand bien commun des uns et des autres. Et le profit se partage. C'est-à-dire le profit, c'est le profit pour l'entreprise, mais aussi c'est des profits pour l'humain. Et la grande intelligence, c'est que l'humain n'est pas intéressé par l'argent. C'est une bêtise de penser ça. L'argent est important, il faut qu'il en ait. Mais ce qui l'anime et ce qui le motive, beaucoup plus que l'argent, c'est les satisfactions narcissiques. Par exemple, le désir de toute puissance. Par exemple, « I want to be number one »,« I want to be a winner », de gagner, d'être excellent. Hein? Donc, et que la performance, ce n'est pas de leur donner beaucoup d'argent, ça c'est un... C'est une conséquence seconde. La vraie performance, c'est d'obtenir l'adhésion pleine et entière, hein, corps et âme, on pourrait dire, ou on pouvait dire, hein, au siècle dernier, c'est-à-dire cette mobilisation psychique. Et c'est ça qu'on a découvert. Et avec toute la contradiction forte que c'est, parce que les gens vous disent en permanence, quand ils sont dans ce système-là, combien c'est à la fois agréable, combien c'est exaltant, combien c'est stimulant. Et en même temps, il nous disait, oui, mais ce qu'on a appelé l'angoisse des 45 ans, quand on aura pressé tout le jus et qu'il ne restera plus que la plure et les pépins, qu'est-ce que je vais devenir ? Ou on est condamné à réussir ? Ou on a l'impression, quand on fait carrière, de monter un escalator descendant ? C'est-à-dire, on était confronté pour la première fois à un discours très... contradictoire ou paradoxal, on pourra revenir sur la distinction entre les deux. Et c'était fascinant parce que c'est aussi de dire, par rapport aux théories de l'aliénation qui évoquaient les rapports du travailleur qui n'avait pas conscience de la domination dont il était l'objet, là, je veux dire, il y avait une lucidité de ces gens-là sur leurs conditions, sur les contradictions dans lesquelles ils étaient, sur les choix subjectifs qu'ils faisaient, etc., qui faisaient qu'on ne pouvait pas parler d'aliénation. Par contre, ce qu'on avait découvert, d'une certaine façon, c'est qu'il y a une partie de cette emprise de l'organisation, ou plutôt, pour ne pas parler d'emprise, du lien entre l'individu et l'organisation, qui articulait des processus organisationnels, juridiques, économiques, financiers, et des processus psychiques et intrapsychiques, et qu'il y avait une partie qui était inconsciente. Alors aujourd'hui, évidemment, j'ai dit à l'époque, on découvrait ça et on n'avait pas encore toute la batterie conceptuelle pour décrire ces processus. Et vous avez évoqué le concept de système socio-psychique, mais simplement l'idée, c'est qu'il y a une intrication forte entre le fonctionnement de l'organisation et le fonctionnement des individus, hein, et que ces hypothèses sont courantes aujourd'hui. Par exemple, l'organisation produit des individus qui produisent l'organisation. Mais à l'époque, c'était absolument pas courant. C'est-à-dire, on pouvait pas raisonner comme ça, les gens. Il y avait l'organisation d'un côté, les individus de l'autre, et il y avait la sociologie d'un côté et la psychologie de l'autre. Et puis, les psychosociologues étaient rejetés de partout. De toute façon, ils faisaient du groupe, eux, et ils n'apportaient pas vraiment quelque chose d'essentiel. Et le retournement, ça a été qu'effectivement, on a là un phénomène de pouvoir qui est que le pouvoir n'était pas en extériorité, comme le capitalisme, comme les... Alors, par rapport à la vision du pouvoir, le pouvoir des patrons sur les ouvriers. Et les patrons conçoivent et les ouvriers exécutent. Et les patrons, c'est les propriétaires des moyens de production et les ouvriers n'ont que leur force de travail à vendre, etc. C'est-à-dire, le schéma marxiste clair, d'ailleurs, pour décrire les rapports de domination, n'était et n'est toujours pas, d'ailleurs, pertinent pour comprendre cette nouvelle forme de pouvoir, d'où le fait d'aller du côté, par exemple, de Michel Foucault. Michel Foucault, quand il analyse le système disciplinaire et ces micro-dispositifs de pouvoir qui s'inscrivent dans l'architecture, dans les règlements, dans les procédures, dans l'organisation du temps, dans l'organisation de l'espace, etc., et qui, à propos du modèle carcéral, mais en fait, qu'il développe et qu'il applique à l'ensemble des institutions et des organisations qui se développent au XIXe siècle et dans la et au XXe siècle, dans les collèges, dans les hôpitaux, dans les casernes, dans les usines, dans les couvents, enfin partout, et qu'il a appelé dans le « Surveiller et punir » le système disciplinaire, qui pour moi est le livre le plus extraordinaire en termes de sociologie des organisations qu'on ait jamais écrit, et dans lequel il dit que l'objectif de ce pouvoir, c'est rendre les corps utiles, dociles et productifs. Eh bien, vous prenez exactement la même méthodologie que celle de Foucault pour analyser ces nouvelles formes d'organisation, et vous rendez compte que l'objet du pouvoir dans ces organisations n'est plus le corps pour rendre le corps utile, docile et productif, ou plus principalement, ou même plus du tout parfois, mais la psyché. C'est rendre la psyché, rendre l'énergie psychique utile, pas docile, mais canaliser l'énergie libidinale pour la transformer en force de travail, en proposant un contrat narcissique dans lequel l'organisation va proposer de canaliser, de vous offrir à la fois du plaisir, satisfaire vos désirs et canaliser vos angoisses. Ce qui est quand même formidable. C'est-à-dire d'abord parce que vous avez pu à vous poser la question de savoir comment vous allez faire pour satisfaire vos désirs, puisqu'on vous propose de travailler dans une liberté complète, puisque vous êtes libre de travailler 24 heures sur 24. Et voyez l'aspect paradoxal, hein ? Vous êtes libre de libre, c'est vrai. C'est le sujet qui est choisi. On ne vous impose pas la pointeuse, la discipline, etc. Bien au contraire, d'ailleurs, on vous sélectionne, parce qu'on ne va prendre que des gens qui sont dans la performance, des gens qui ont envie de réussir, des gens qui ont envie d'aller vers l'excellence, etc. C'est très difficile de résister à une telle sollicitation. On vous propose d'être excellent, on vous propose d'être performant, et en plus, on vous propose des conditions objectives de travail qui sont de travailler pour le progrès technologique. Alors c'est pour ça qu'on l'a vu d'abord dans les secteurs de haute technologie, de pointe, d'informatique en particulier, toutes les entreprises informatiques, toutes les entreprises de télécom, etc. Et donc, où vous étiez, où l'American Express, où les lieux, là où il y avait des performances fortes, les salles de marché, les traders, etc. Et vous avez vu ces écoles de gestion qui commencent à sélectionner, mais en fait, la sélection, elle commence bien avant les écoles de gestion, pour avoir les meilleurs. Les winners, ceux qui en veulent, ceux qui veulent gagner et qui sont prêts à se défoncer pour faire des performances, etc. Et donc, ces gens-là vont produire ces organisations qui vont produire ces gens-là. C'est-à-dire qu'il y a une intrication qui va se faire entre ces nouvelles formes de gouvernance, de management, et il y a une structure psychologique de gens qui sont motivés par la performance, par l'excellence, par la flexibilité, par la mobilité, qui veulent réussir, qui sont prêts à se défoncer, qui n'ont pas peur de travailler, qui n'ont pas peur de challenges compliqués, qui n'ont pas peur de la complexité, qui n'ont pas peur de... Il y en a qui disent plus c'est difficile et plus c'est emmerdant, plus j'aime ça, quoi. Parce que j'aime ça, parce que c'est des défis, parce que c'est du challenge, parce que ça me motive, parce que c'est l'émulation, etc. Et donc, effectivement, ça produit des effets du genre, par exemple, ici, l'important, c'est pas, c'est l'action. Je vais vous dire une phrase, par exemple, de Philips Way. Nous sommes tous d'accord pour dire que l'entreprise a besoin d'actes et non de mots. Nous sommes tous d'accord pour dire que l'entreprise a besoin d'actes et non de mots. Cette phrase contient deux paradoxes. Un paradoxe logique, simple, qui rend pas fou. hein, qui est simplement de dire avec des mots, l'entreprise n'a besoin d'actes, a besoin d'actes et pas de mots. Hein, c'est le paradoxe, tous les un crétois qui dit tous les crétois sont des menteurs. C'est paradoxal, on ne sait pas quoi penser, mais ça ne rend pas fou. Et puis il y a un autre paradoxe qui est plus intéressant sur le registre du pouvoir, qui est nous sommes tous d'accord pour dire, hein, c'est je vous ordonne d'adhérer spontanément en restant. Donc vous êtes libre, vous êtes vraiment des sujets responsables, intelligents, hein, qui évidemment hein, vont produire ce nous sommes tous d'accord hein, pour adhérer tous ensemble à un projet collectif hein, qui est celui que je vous impose et auquel vous allez adhérer absolument librement, en toute conscience, comme des sujets autonomes que vous êtes, créatifs, capables de décider vous-même de leur vie, qui n'a pas besoin d'un dictateur totalitaire pour vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, mais qui vont adhérer spontanément à une grande œuvre, à quelque chose qui est hein, de le développement des objectifs, le développement de la performance, le développement de l'excellence durable. Encore un paradoxe, l'excellence durable. Hein, parce que ce langage de la révolution managériale utilise en permanence les oxymores. Les oxymores, c'est cette obscure clarté. Bon. L'excellence durable, je voudrais développer ça, le paradoxe qui est là, parce que c'est ce qui est quand même préconisé aujourd'hui par les institutions européennes et the European Foundation for Quality Management, qui est auprès des institutions européennes et qui est la proposition qui est faite à l'ensemble des entreprises européennes pour développer la qualité dans leur domaine. Et l'excellence durable, pourquoi c'est ça nous met en difficulté ? C'est parce que être excellent, c'est être hors du commun. Donc quand vous proposez à tout le monde de devenir excellent, durablement en plus, que devient le monde commun ? C'est-à-dire que devient la société ? Parce que la société, c'est construire un monde commun. Et la politique, selon Hannah Arendt, ça devrait être de construire un monde commun. Or, on vous propose là, pour réussir, pour être performant, et je dis, c'est les institutions européennes, donc c'est la politique, qui vous propose de détruire le monde commun, en devenant excellent, c'est-à-dire en réussissant grâce à la performance. Comment vous voulez-vous qu'on soit contre la performance ? C'est impossible, contre l'excellence, c'est impossible. Et en même temps, dans ce projet-là, il y a quelque chose de destructeur. Alors, c'est ces hypothèses qui m'amènent à penser que les symptômes qu'on voit aujourd'hui dans le monde du travail ne sont que l'expression de cet ordre paradoxal. Alors, je vais utiliser évidemment des paradoxes de cet ordre chaotique, par exemple. Pourquoi je dis ordre chaotique ? Quand on a écrit « Le coût de l'excellence », vous l'avez noté tout à l'heure, c'était en réaction à un livre de Peter Waterman qui ont écrit un livre qui s'appelle « In Search of Excellence », c'est-à-dire « Le prix de l'excellence » en français. Et avec Nicole Omer, on voulait montrer la face d'ombre hein, de ce projet de proposer les recettes de la performance à partir d'une analyse qu'avait fait Peter Waterman des 64 entreprises les plus performantes dans le monde au début des années 80. Ce livre s'est vendu à des millions d'exemplaires et a été le livre de chevet de l'ensemble des dirigeants qui étaient responsables de mettre en place cette révolution managériale qui était présentée comme étant enfin le mode de gouvernance qui allait à la fois concilier la performance de l'entreprise et la performance de l'humain. Le livre suivant de Peter est passé un peu inaperçu. Il s'appelle « Le chaos management ». Et dans l'introduction de ce livre, il dit que sur les 64 entreprises qu'ils ont pris comme référence pour les clés de la performance, il y en a plus de la moitié qui sont en crise, qui ont été rachetées ou qui ont disparu. Et il dit qu'il faut donc développer le chaos management, qui est par exemple devenez des fanatiques de l'échec. Pourquoi ? Parce que si vous échouez 3 mois ou 6 mois avant les autres, vous vous donnez une chance de réussir le coup d'après avant eux. voyez le paradoxe ? C'est-à-dire que lui-même énonçait, un, l'échec du modèle du management par l'excellence, en termes de réussite économique, en termes de réussite financière, et montrait qu'il nous faisait rentrer dans un monde totalement chaotique, dont on voit d'ailleurs les exemples tous les jours, c'est-à-dire par exemple ces organisations, ces entreprises, ne sont plus dans des organisations stables, bien gérées, rationnelles, mais montrent un monde qui est en compétition, où la lutte des places, où le chaos se développe en permanence. Et en particulier le chaos, c'est par exemple le fait que le terme même d'organisation qui, dans nos têtes, continue à évoquer une représentation d'un ordre hiérarchique, plus ou moins pyramidal, ordonné. Aujourd'hui, l'organisation, c'est des transformations, c'est de la réorganisation permanente. Et l'erreur conceptuelle, c'est de penser que c'est une crise. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que depuis 1975, on parle de crise en permanence, de crise dans les organisations, de crise dans l'économie, de crise dans la société. Mais la crise étant devenue un état permanent, ça veut dire que ce n'est pas une crise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le fonctionnement structurel de notre système, de ces entreprises et du système social et du capitalisme qui produit ces effets de chaos permanents, ces effets de paradoxaux, ces contradictions, ces mouvements, etc. Et d'où toute une littérature pour dire, eh bien, face à cette complexité, face à la performance, il faut rendre les individus mobiles, flexibles, adaptables. Maintenant, effectivement, la performance, c'est TTM, time to move. Et le time to move, de sinistre mémoire, est un des éléments qui a été donné comme un des éléments explicatifs des suicides à France Télécom. De cette espèce de mobilité folle, permanente, qui fait que les gens n'ont plus... Ils sont dans, ce que dirait un psychanalyste, l'acting out permanent. C'est-à-dire, effectivement, l'entreprise... On a besoin d'actes et non de mots, c'est-à-dire on vous propose, et le sarkozysme a fonctionné comme ça pendant tout un moment aussi, c'est-à-dire que il faut agir, comme si le sens était dans l'action, alors que les psychanalystes vous montrent très bien que l'acting out, le passage à l'acte, c'est un mécanisme de défense contre l'angoisse, et donc tant qu'on agit, on n'est pas angoissé, et si on s'arrête d'agir, comme on n'a pas les moyens d'élaborer les contradictions et les conflits dans lesquels on est, à ce moment-là, c'est l'angoisse qui arrive et on est perdu. Et on est éperdu et c'est le désastre jusqu'à se flinguer parce que c'est insupportable. Alors, je vais vite pour résumer la thèse. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Il y aurait bien d'autres choses à dire. Mais pour conclure, je voudrais dire encore deux, trois choses. La première, c'est l'aspect idéologique. J'ai évoqué l'aspect idéologique et j'ai évoqué Milton Friedman. Et l'autre, c'est les théories du capital humain, avec des gens comme Gary Becker, etc., qui proposent une théorie de développement des potentialités de l'humain. Et ces théories du capital humain sont une des choses qui a été le moins critiquée et qui est pour moi le plus critiquable, qui s'est traduit dans les entreprises, en particulier par l'émergence de direction des ressources humaines. Et tout le monde a trouvé ça très bien, parce que enfin, d'abord parce que service du personnel, ça faisait archaïque, obsolète et bureaucratique. Pourtant, les mots sont les mots. Service du personnel, c'est joli comme mot. Les pratiques, mais au moins la représentation que ça en donne. Et on a supprimé ça. Je suis en bisbille avec mon président d'université qui l'a fait là. Enfin, c'est pas lui, c'est le précédent, parce qu'ils ont fait la même chose. Et j'espère arriver à revenir en arrière. Ça serait une de mes grandes fiertés avant de quitter cette université que j'aime bien par ailleurs. Pourquoi j'ai cette obsession par rapport à gestion des ressources humaines ? Vous voyez bien le piège. Le piège, c'est que, enfin, on va se préoccuper de l'humain. Très bien. parce que par rapport à un des les juristes qui étaient les responsables du service du personnel, ils s'occupaient que des règlements, ils voyaient pas l'humain. D'ailleurs, c'est la bureaucratie, puis ils sont archaïques, et puis c'est plus possible de gérer les choses comme ça. Alors, ça portait du modernisme, mais ça portait aussi un sentiment qu'on allait enfin s'occuper de l'humain. Et donc, la plupart des gens n'ont pas vu l'entourloupe idéologique magnifique qui est derrière le terme même de ressources humaines et par rapport à la question des moyens et des finalités. Effectivement, on s'occupe de l'humain, mais l'humain devient une ressource au service du développement de l'entreprise et donc l'entreprise devient la finalité et l'humain le moyen par rapport à cette finalité. Et vous avez exactement le même rapport dans les mêmes années entre l'économique et le social. Et les politiques sont aujourd'hui complètement contaminées par la gestion. Je ne sais pas si à la librairie Mola, il y a le beau livre de Aude Arlet qui a fait sa thèse avec moi sur le coût et le goût de l'exercice du pouvoir à partir d'entretiens avec 80 personnes de cabinet ministériel. Et son livre est terrifiant parce qu'il montre que l'ensemble de ces personnes qui se dévouent corps et âme pour le bien commun, puisqu'ils font de la politique, ont complètement intériorisé l'idéologie managériale de la performance, du résultat, de la com, de l'excellence. Je vous résume juste une interview de l'un d'entre eux. Je rêve d'une France de 60 millions de Laure Manaudou. Laure Manaudou, à l'époque de l'entretien, était championne du monde. Alors, voyez, je reviens à l'excellence, le monde commun, etc. C'est-à-dire que, en fait, avec cette idéologie des ressources humaines, le moi de chaque individu est devenu un capital qu'il faut faire fructifier. Utilisant en plus les théories du développement humain et une partie de la psychosociologie, c'est-à-dire toutes ces belles pratiques venant de Californie, etc., depuis les années 68, aidant les individus à réaliser leur potentiel, l'expression corporelle, les papouilles californiennes, la PNL, l'analyse transactionnelle, etc., c'est-à-dire toutes ces technologies qui, au départ, ne sont pas du tout des technologies de pouvoir, puisqu'elles sont faites pour vous faire du bien, pour être en accord avec votre désir, pour entretenir l'idée que l'objectif de l'existence est la réalisation de soi-même, et donc c'est très bien de développer ses potentialités. Sauf que vous voyez bien la conjonction des deux fait que, dans l'idéologie des ressources humaines, évidemment, le développement du potentiel intellectuel, affectif, émotionnel, l'intelligence émotionnelle. Vous avez vu ça, l'intelligence émotionnelle. Pour la mettre, effectivement, pour la transformer en ressource pour l'organisation, pour l'entreprise. Alors, si on veut comprendre pourquoi, effectivement, et vous l'avez très bien dit dans l'introduction, il faut comprendre que si ce modèle a tellement bien marché, s'il continue à tellement bien marcher, et s'il s'est imposé sur l'ensemble de la planète, il y a une raison objective, politique. C'est les multinationales, c'est les grands cabinets de consultants, les Big Four, c'est l'ensemble des écoles de gestion, c'est les logiciels qui les accompagnent, qui font que les multinationales ont imposé à leurs fournisseurs, à leurs clients, ce modèle-là, qui s'est répandu comme étant le modèle de la bonne gouvernance et de l'excellence et diffusé donc dans le secteur de la modernisation des entreprises publiques, France Télécom, SNCF, RATP, Pôle emploi, etc., qu'on le voit actuellement avec la réforme des universités, la réforme hospitalière, la réforme de la justice, la réforme de toutes les institutions publiques et donc la RGPP. La révision générale des politiques publiques, qui est l'introduction de ce modèle dans la gestion du public, qu'on le voit jusqu'au cœur du politique. Puis c'était très intéressant les premiers jours de Sarkozy. Il est complètement, lui, dans cette révolution managériale. Et donc, il va rendre son gouvernement performant, le passage à l'acte permanent, la réforme, le mouvement, la flexibilité, l'adaptabilité, l'évaluation des ministres sur les résultats, etc., etc. On est exactement dans ce modèle-là. Et alors que les entreprises, d'ailleurs, sont en train de le remettre en question parce qu'elles ont commencé à en voir les échecs, les politiques s'y mettent en disant que c'est ça, la performance et l'excellence. Alors, le cœur du propos, c'est de dire que les symptômes du... ce qu'on appelle aujourd'hui les risques psychosociaux. Encore une belle entourloupe, ça, pour désigner quelque chose en neutralisant complètement les enjeux de ce qu'il désigne. Risques psychosociaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça évite d'utiliser les mots qui fâchent. Violence au travail, hein, plus, ou harcèlement, je veux dire, harcèlement comme système de gouvernement, hein, souffrance, dépression, stress, suicide, épuisement. Non, risques psychosociaux, ça va. On peut tous se mettre d'accord là-dessus, ça ne choque personne. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a derrière le fait que si les gens vont pas bien, hein, c'est parce qu'il y a eu un déplacement de la colère. Un déplacement, hein, de la conflictualité sociale qui était caractéristique du capitalisme industriel et des rapports sociaux au sein du travail qui se traduisait par un affrontement entre ceux d'en haut, ceux d'en bas, entre les patrons, les ouvriers, entre les bourgeois, les prolétaires, entre les propriétaires des moyens de production et ceux qui vendaient leur force de travail. Et le symptôme de ça, c'était la grève. Ça n'a pas complètement fini, mais presque. Ça a presque disparu. Pourtant, c'est pas, ça va vite, hein. Sauf dans quelques secteurs effectivement considérés comme archaïques, mais même dans le public, vous allez voir, ça a disparu pratiquement. Pourquoi? Parce que ça s'est déplacé au niveau psychologique et psychique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conflits du travail, hein, ils sont vécus comme une partie de moi, hein, qui ne va pas parce qu'elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on lui demande pour pouvoir être reconnue et satisfaite. Quand vous prenez l'analyse de l'ensemble des suicides au travail, vous avez un scénario pratiquement toujours équivalent. C'est la personne qui voudrait, c'est des gens qui se défoncent pour bien travailler, qui ont eu des résultats, des performances, à qui ont eu de la reconnaissance, etc. Et puis à un moment donné, on leur dit, qu'est-ce qui t'arrive?
Même pas nécessaire.
C'est même eux-mêmes intériorisent le fait, ouais, qu'ils sont pas bons, ouais, qu'ils sont nuls, qu'ils n'y arrivent plus, etc. Et que
c'est ça le pire.
Qu'ils sont responsables. Ouais. Qui sont responsables du fait qu'ils n'arrivent plus à des résultats. Je donne juste un exemple pour vous montrer la perversité qu'il peut y avoir derrière certaines pratiques de gouvernance. L'avancement au mérite. American Express. A, B, C, D, E. E, c'est insuffisant. Quand vous êtes à l'American Express, vous avez fait les grandes écoles, vous avez été sélectionné pour rentrer. C'est impossible d'être insatisfaisant parce que c'est tellement la honte que vous partez de vous-même, évidemment. D, c'est doit faire ses preuves. Un petit jeune qui arrive, etc., doit faire ses preuves, ça va, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même infamant. C, c'est satisfaisant. En fait, satisfaisant, c'est la note moyenne. Et la note moyenne, c'est... c'est pas terrible, quand même. Enfin, je veux dire, quand vous voulez réussir et tout, être moyen, c'est quasiment être quelconque. Et être quelconque, c'est pas loin de la médiocrité. Non. Non, vous allez faire B. B, c'est ça, B. C'est ça qu'on attend. Above expectation. Vous devez être au-delà des attentes. Donc, si on vous demande 100, ce qu'on attend de vous, c'est que vous fassiez 110. Et comme vous êtes bon, vous allez faire 110. Donc, en fait, C, c'est presque la plus basse note, et la moyenne, c'est B. Et A, c'est clearly outstanding, clairement hors du commun. C'est quand vous avez fait des résultats exceptionnels. Donc, vous faites B. L'année d'après, on vous fixe vos objectifs. Hein, pour avoir B, vous avez demandé 100, vous devez faire 110. L'année d'après, vous n'allez pas faire moins que ce que vous avez fait. Donc, le 110 devient 100. Donc, vous allez toujours essayer de faire B, donc vous allez faire quoi? 120 par rapport à N-2. Et en fait, un peu plus que 100 par rapport à l'année considérée. Et donc, C'est ça, hein, la réussite mène immanquablement à l'échec, puisque plus vous réussissez à faire vos objectifs, plus ces objectifs augmentent, plus vous êtes mis en échec par ne pas pouvoir les réaliser. Mais comme vous ne réalisez pas le mécanisme, vous dites, mais alors cette année, j'ai été mauvais, dis donc. Oh, attends, excuse-moi, mais là... Et alors, qu'est-ce qui s'installe ? Ben oui, je ne suis pas bon. Bon, il faut que je bosse. Et voyez les gens de France Télécom ou de Renault, etc., qui rentraient à 10h du soir, qui partaient à 7h du matin, qui travaillaient la nuit, etc. C'est-à-dire, ils ont intériorisé le fait que c'est eux qui ne vont pas. Et à ce moment-là, ils rentrent dans cette espèce de cycle de destruction. Donc, si on ne fait pas le rapport entre l'objectif, l'objectivité Alors, l'objectivité des pratiques de gestion, d'évaluation, de sélection, de promotion, de carrière. Mais derrière, la mesure des résultats. La filiale de Danone mexicaine a fait 20% de résultats de plus que ses objectifs en 2008. Elle a été félicitée. Vous êtes formidable. Vous êtes les meilleurs, etc., etc. Et il y a un type du staff des États-Unis qui est arrivé disant « Vraiment, vous êtes performant. C'est pas possible. Ce que vous êtes bon. Allez, on fait un challenge. L'année prochaine, 70%. » 12 personnes, le staff, éclaté. 6 dépressions nerveuses. 3 démissions. Les autres qui... C'est-à-dire, c'est ce que je voudrais bien qu'on comprenne ici, c'est combien il y a quelque chose de destructeur dans ce mode de fonctionnement, mais combien il nous met dans une situation paradoxale. Comment voulez-vous être contre la performance, contre la qualité, contre l'excellence, et de voir que ce système est un système performant, effectivement. Dans l'informatique, depuis 30 ans, chaque année, on a sorti du matériel qui était deux fois plus performant, deux fois plus puissant, deux fois plus convivial, deux fois moins cher. Et maintenant, sur votre petite machine, vous avez accès en temps réel, et même sur votre petit téléphone, à l'ensemble de la connaissance qui est produite. Vous pouvez communiquer avec tout le monde, etc. Extraordinaire performance. Incontestable. Magnifique. Mais ce même système produit... Le stress produit ces sentiments de travailleurs qui ne comprennent plus très bien, mais ça produit aussi la crise financière, c'est-à-dire ça produit le fait que c'est quoi cette crise ? C'est pas une crise, c'est vraiment au cœur même du fonctionnement, hein, de cette forme de gouvernance qui met les gens dans une situation qui les met dans l'impuissance pour savoir quoi faire, parce que ça ne fait pas sens pour eux. Et donc, moi, mon idée dans ce livre, elle est double. C'est, un, donner des outils pour que les gens comprennent pourquoi ils ne vont pas bien, en mettant en rapport ce qui se passe pour eux, comment ils le vivent. Et c'est ça, l'aspect clinique, au plus près du vécu des travailleurs. Je peux vous dire qu'au laboratoire de changement social, on a fait maintenant des enquêtes dans tous les secteurs d'activité, dans tous les types d'organisations, dans public et privé, marchands, non-marchands, grosses organisations, petites organisations, et que le diagnostic est le même. Hein, tu parlais de Marianne Dujarrier, l'idéal au travail, qui a fait dans les restaurants chez Clément et des services hospitaliers. Hélène Weber, du ketchup dans les veines, je vous le conseille celui-là, du ketchup dans les veines sur le système McDonald's. Grégoire Filonenko, Carrefour de l'exploitation chez Carrefour. Fabienne Annick, le sens du travail à la poste, etc. Bon, on les a tous. Et donc, on voit exactement les mêmes symptômes. Alors, deux choses. Si les gens ne vont pas bien, ils pensent que c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui ne va pas. Et d'ailleurs, on leur dit, bah, si c'est suicidé, c'est parce qu'il a des problèmes personnels, ce qui est vrai. On ne se suicide pas si on n'a pas des problèmes personnels. Et donc, du coup, on occulte le lien qui peut exister entre ces problèmes personnels et le mode de fonctionnement de l'organisation, les pratiques de management, les outils de gestion, etc. Donc, faire ce lien-là, mais aussi montrer que cette révolution managériale et ces formes de gestion sont, en fait, le bras armé, le modèle à la fois, hein, du fonctionnement du capitalisme en particulier du capitalisme financier, et je vous invite vraiment à voir le film de Jean-Robert Vialet, La mise à mort du travail, qui montre parfaitement les liens qui existent entre le mal-être, la souffrance au travail, ces formes de management et de réorganisation permanente, et le fonctionnement du capitalisme financier, et en particulier la disjonction entre le capitalisme financier et le capitalisme de production. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut se mettre en colère. Pourquoi il faut se mettre en colère ? Si vous ne voulez pas tomber malade, si vous ne voulez pas être déprimé, ou plus, avoir cette plainte de « j'en peux plus, je ne sais plus quoi faire », il y a un truc, c'est-à-dire retourner l'agressivité contre soi, c'est ça en fait. C'est quand il y avait des patrons, je ne dis pas la légitimité de savoir si les arguments, mais au moins un patron pouvait se mettre en colère. Et là, qui c'est les patrons ? Hein, sur ce pouvoir. Et pourquoi qui c'est les patrons? C'est parce que chacun d'entre nous participe à la production de ce système. On n'en est pas responsable. On n'a pas le pouvoir de le changer. Mais on a pouvoir de changer au moins ce qu'il nous fait et de changer. Regardez, je dis à mes étudiants, par exemple, hein, je fais la critique et des étudiants sont complètement d'accord avec mon diagnostic, etc. Ça ne les empêche pas de m'envoyer le vendredi soir un texte ou un devoir parce que je dois les voir le lundi matin. C'est-à-dire comment ils participent, hein, à produire ce que nous dénonçons par ailleurs sur la pression de l'urgence, la pression du travail, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on va changer la société en changeant ça, mais ça veut dire qu'on va passer du processus d'intériorisation, donc de soumission ou d'acceptation, même si on n'est pas d'accord, à processus de la colère. C'est quoi la colère ? C'est dire non, ça suffit. Donc je ne veux pas me détruire. Je ne veux pas contribuer à détruire les autres. Je ne veux pas contribuer à penser que je puisse arrêter de me détruire en détruisant les autres. Hein, quand on est mis sous pression, on met tout de suite des pressions les autres. Et je n'accepterai plus de participer à la mise en place d'outils de gestion, par exemple, qui font qu'on évalue mon laboratoire en fonction du nombre de chercheurs non publiants, c'est-à-dire tous les chercheurs qui ne font pas les articles qui vont être publiés dans les revues classées A, etc., pour gagner des places sur le classement de Shanghai. Bon, alors j'ai entamé un débat avec mon président d'université sur cette question-là, mais je veux dire, c'est une vraie bataille, et donc la colère, ça fait du bien. Je vous remercie.